Chapitre 6. Le règne de Justinien s'annonce comme un grand règne. À Constantinople, dans les provinces, sur les frontières, s'élèvent de nouveaux édifices et de nouvelles forteresses. Le faubourg des Sicques, les Figuiers, agrandi et embelli, devient le 14e quartier de la cité. La ville de Palmyre renaît de ses ruines, plus magnifique qu'auparavant. Une nouvelle couche d'inscriptions, témoignant de la puissance de l'empereur et de l'ordre de l'Empire, couvre la Grèce, l'Asie mineure, le littoral de l'Afrique jusqu'aux colonnes d'Hercule. Le savant tribonien, nommé Questeur, entreprend avec 17 juriconsultes la recension des lois romaines. Le code justinianéen règne dans tout l'Empire. Les rapports de l'Église et de l'État, les préséances entre l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople sont réglées. Bélisaire et Sittas, dont Justinien a eu le mérite de découvrir les qualités militaires alors qu'il servait sous ses ordres comme officier subalterne de la garde de Justin, tiennent tête aux Perses et terminent la guerre qui durait depuis 30 ans. D'autres généraux, Germain, Pierre, Syriac, soumettent les Tzanes, battent les barbares qui s'étaient avancés en Arménie et repoussent les esclavons au-delà du Danube. La grande politique de Justinien, qui consiste à faire des vassaux, des peuples dont il ne peut faire des sujets, commence à porter ses résultats. Mondon, capitaine renommé, fils du roi des Gépides et issu de la race d'Attila, envoie sa soumission et se met avec ses troupes à la solde de Justinien. Gordas, roi des Huns de la Chersonèse, Grétès, roi des Hérules, entre dans l'alliance impériale. Sur tous les points, les vastes frontières de l'Empire sont à l'abri des insultes des barbares. Que dit le peuple? Le peuple acclame le nouvel empereur qui, l'année de son avènement, a pris pour la seconde fois le titre de consul et a inauguré son nouveau consulat par les courses et les spectacles les plus magnifiques qu'on eût encore vus dans l'hippodrome. Ces courses de chats, importées d'Olympie à Rome et de Rome à Constantinople, passionnait le peuple des grandes villes de l'Empire. Cette passion dominait et remplaçait toutes les autres. Les gréco-romains du VIe siècle mettaient aux rivalités, aux luttes parfois sanglantes des hippodromes, l'ardeur qui les animait naguère dans les élections et les discussions de l'agora et du forum. Les courses satisfaisaient à la fois les passions politiques, l'amour des spectacles et la folie du jeu. La population formait deux associations rivales qui prenaient leur nom de la couleur des tuniques des cochers. Il y avait la faction verte et la faction bleue. Chacune avait ses chefs, son trésor, son amphithéâtre particulier, ses chevaux, ses chars et son personnel de cochers, de funambules, de montreurs de fauves, d'employés de toutes sortes. Chacune formait une milice municipale, possédant sa bannière et ses insignes, ses fonctions et ses prérogatives. On a prétendu que chacune des deux factions représentait tel ou tel principe politique, telle ou telle opinion religieuse. C'est une simple conjecture à quoi l'on pourrait opposer plus d'un fait. Cependant, comme l'empereur, qui avait les mêmes passions que ses sujets, avouait généralement ses sympathies pour l'un ou l'autre parti, il arrivait que les mécontents se mettaient parfois dans le parti adverse. Ainsi, sous un empereur qui était bleu, la victoire des Verts devenait un triomphe pour l'opposition. Mais cette opposition, à mieux dire cette fronde, ne reposait sur aucun principe et n'avait d'autre but, en général, que le remplacement d'un ministre ou d'un préfet. Les Constantinopolitains ne pensaient pas à revenir à la République. Marc Aurèle se félicitait de n'avoir jamais eu la tentation de favoriser les Bleus ou les Verts. Justinien n'avait pas cette sagesse. Il tenait pour les Bleus, et non plus que Théodora, qui avait les mêmes sentiments, il ne cachait ses préférences. Les principaux magistrats de l'Empire, qui brillaient plus par leur talent que par leur vertu, profitaient des sympathies des souverains à l'égard d'un parti pour accabler le parti adverse d'injustices, d'exactions et de mauvais traitements. Ces hommes, sachant que les plaintes des Verts seraient mal accueillies au palais, bravaient sans risque la haine et les malédictions. Il n'y avait pour les Verts aucune garantie dans l'administration, aucune équité dans les tribunaux. De leur côté, les Bleus, sûrs de l'impunité, molestaient les Verts en toute occasion. Les partis, ainsi surexcités, en venaient aux mains. Le sang coulait souvent dans les rues. On pouvait craindre le retour des désordres de l'année 520 qui avaient été si rigoureusement réprimés par le préfet Théodote à Constantinople et par le préfet Éphrem à Antioche. Justinien savait-il dans quel état se trouvait la capitale? L'empereur vivait comme isolé dans cet immense palais. Les bruits de la grande ville n'arrivaient pas jusqu'à lui. Sans doute, il ne connaissait des événements qui s'y passaient et de l'opinion qui y régnait que ce que lui en apprenaient les rapports plus ou moins mensongers des fonctionnaires. Mais il y avait à Constantinople un lieu où s'étaient réfugiées les dernières libertés roumaines, où le peuple pouvait librement faire entendre sa voix à l'empereur. C'était l'hippodrome, forum, tribunal suprême et capitole de la seconde Rome.